Bonjour à tous et à toutes. Au micro, David Chemla, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Bien, nous sommes aujourd'hui en ligne avec Madame Peggy Sidor, qui est journaliste à Jérusalem Post, spécialiste surtout des questions de Jérusalem et des problèmes sociaux en Israël. Et nous avons voulu donc inviter et interviewer Madame Peggy Sidor à propos de nouvelle loi qui a été votée à la Knesset le 18 juillet dernier, il y a 3 jours. Une nouvelle loi qui s'appelle la loi de l'État-nation. Alors, avant d'interviewer Madame Sidor, juste pour préciser un peu le contexte, vous savez qu'Israël n'a pas de constitution, il y a des lois fondamentales qui ont été votées depuis 1948, il y en a une douzaine, et évidemment, cette loi de l'État-nation était une loi qui a été plusieurs fois proposée et étudiée depuis une dizaine d'années. Finalement, le gouvernement actuel, avec sa coalition, a réussi à la faire voter le 18 juillet, après un débat houleux, et ça devait passer avec 62 voix pour, 55 contre et 2 oppositions. Alors, je voudrais donc demander à Mme Sidor d'abord de nous expliquer le sens de cette loi et pour que vous puissiez comprendre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, donc vous avez entendu ma question, donc on revient sur cette loi.
Oui, j'ai entendu, oui.
Donc, je vous écoute. Vous pouvez donc nous expliquer un peu le contexte à nos auditeurs, ce que veut dire cette loi.
Bon, alors, je voudrais partager ça en deux choses. Alors, d'abord, effectivement, la loi de l'État-nation juif, hein, parce que c'est pas seulement l'État-nation, oui, c'est l'État-nation juif, en fait, revient pour la plupart de ces paragraphes sur la déclaration d'indépendance. La Megillat Ha'atzmaout de 48, à la création de l'État. Il y a très peu de changements, mais ils sont importants. Ils sont surtout pas innocents. Alors a priori, on pourrait dire quel est le besoin de cette nouvelle loi, puisque finalement tout cela est expliqué dans la déclaration d'indépendance et l'État juif pour les juifs qui veulent venir, la loi du retour, le rapport avec la terre d'Israël, les symboles, la tikva qui est l'hymne national, le drapeau israélien, le symbole de l'État, la menorah avec les bancs. Tout ça existe déjà dans la déclaration d'indépendance. On se demande pourquoi maintenant cette loi. Il y a dans cette loi 2 paragraphes très intéressants, très importants et très inquiétants aussi. Je vais vous le lire, je vais le traduire comme ça à cappella tout de suite. Medinat Israël est l'État de la nation du peuple juif dans lequel il peut exprimer son droit naturel, culturel, religieux et historique pour le peuple juif. Et ce n'est que dans la terre d'Israël, que dans l'État d'Israël, que le peuple juif peut exprimer ses besoins et ses droits. Mais dans l'État d'Israël, il y a aussi 20% de citoyens qui ne sont pas juifs. Pas un mot sur eux, pas un mot sur leur culture, sur leur religion, sur leur moyen d'exprimer leur spécificité, pas un mot. Alors ça, c'est quand même assez aberrant, je veux dire, comment est-ce qu'on peut ignorer 20% de la population israélienne ? Alors c'est vrai que dans le domaine des lois, telles qu'elles sont le livre des lois israéliens, ils sont à égalité totale, ça, il faut le dire. Dans la pratique, il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes à la pratique par rapport à toutes sortes d'ethnies différentes et de communautés différentes en Israël. Nous sommes loin de la situation idéale dans laquelle tout le monde serait vraiment logé à la même enseigne. Mais là, on les ignore complètement. Bon, maintenant je passe au paragraphe numéro 4. C'est le fameux paragraphe sur la langue hébraïque et la langue arabe. Alors jusque-là, depuis la création de l'État, depuis 1948, les deux langues ont le même statut, l'hébreu et l'arabe, exactement le même statut. Aujourd'hui, dans cette nouvelle loi, la langue hébraïque a la primeur, c'est la première loi. Il y a des arrangements qui vont être faits pour que la langue arabe puisse exister aussi et être utilisée dans un contexte public, c'est-à-dire dans les tribunaux, dans les endroits publics où on a besoin de traduire. Mais c'est donc plus la même chose. Et ça, enfin, je veux dire, ça ne peut pas être innocent. Ça ne peut pas être innocent. Nous ne vivons pas une époque d'innocence de toute manière, et en politique, l'innocence, ça n'existe pas.
Tout à fait, d'autant plus que vous aviez cité la déclaration d'indépendance à propos des droits des minorités. C'était très précis dans la déclaration d'indépendance. Et on rappelait, je le lis pour nos auditeurs, que le futur État sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix, enseignés par les prophètes, qu'il assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe, et qui garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture. Évidemment, et ça, c'est absent. Et ça, c'est absent.
C'est absent. C'est une grosse absence.
Tout à fait.
Et le troisième paragraphe, qui est peut-être le plus dangereux, hein, c'est-à-dire il n'est pas seulement pas innocent, il est aussi dangereux. L'État juif veillera au développement, veillera à la sécurité des enfants du peuple d'Israël, Bnei Am Yehudi, et de ses citoyens en général, qui sont en danger ou qui risquent leur vie à cause de leur judéité ou de leur citoyenneté, dans le monde ou ailleurs. Les citoyens arabes, une fois de plus, ne sont pas mentionnés. Alors, imaginez-vous un cas pareil, parce que c'est pas tellement imaginaire, un attentat, prise d'otage israélien et juif. Alors, qu'est-ce que fera si l'État d'Israël décide d'envoyer des forces israéliennes pour sauver les otages? On sauve que les juifs et on laisse les arabes à la discrétion du pays où c'est arrivé? Ça veut dire quoi, ça? Il y a des choses qui doivent être mentionnées et on doit insister dessus, parce que sinon, ça prête à c'est difficile, parce que de toute façon, la situation est assez difficile et assez dure. Il y a un énorme niveau de manque de confiance entre les différentes communautés ici. Alors, c'est vraiment pas le moment d'en rajouter avec des paragraphes comme ça qui sont nébuleux, qui sont pas clairs.
Tout à fait, qui peuvent être interprétés en fonction des situations par différentes personnes.
Absolument, absolument. Imaginez-vous un autre chef du conseil, un autre premier ministre, qui irait beaucoup plus loin. Déjà comme ça, c'est assez grave, mais il pourrait y en avoir un qui irait encore plus loin. Et qui se servirait de ce paragraphe pour dire « Ah, mais moi, les citoyens arabes, c'est pas mon problème. Hein. Ils sont en otage en Belgique, en France ou ailleurs. Eh bien, que ces gouvernements-là s'occupent d'eux. Moi, je m'occupe que des Juifs. »
Bien, bon, enfin, disons ça, c'est un cas qui concernerait a priori les pays où ça se passerait. S'il se passerait un attentat en France, c'est la France qui prendrait en charge, je pense, les problèmes de sécurité de ses citoyens, quelle que soit leur origine. Mais disons, dans la société israélienne, c'est ça ce que je voudrais que vous nous expliquiez, qu'est-ce que cela va changer au quotidien par rapport aux citoyens et aux minorités surtout?
Alors, le problème concret qui risque de se développer déjà tout de suite, demain matin, si vous voulez, hein, c'est que l'État juif, l'État d'Israël, ça c'est le paragraphe numéro 7, à mon avis c'est le pire. L'État voit dans le développement de l'installation de localités juives un intérêt national et fera en sorte de l'encourager et de le développer. C'est-à-dire, c'est créer des villes, des villages, entre autres probablement des colonies, de nouvelles colonies aussi, c'est inclus, c'est clair que c'est inclus dans ça. Et on parle de Itiashvut Yehudit, ça veut dire d'installation juive. C'est-à-dire, dans les localités arabes qui déjà étouffent par manque de plans de développement, de cadastres pour pouvoir construire et développer pour la jeune génération, pas un mot. Les budgets iront seulement pour le développement de villes, de villages, de localités, y compris probablement de colonies, seulement pour les juifs. Cela veut dire aussi que dans une localité juive, un citoyen arabe, palestinien arabe, israélien qui voudra s'installer, ne pourra pas le faire. Déjà aujourd'hui, ce n'est pas facile, c'est pratiquement impossible, mais a priori, selon la loi, ça devrait être possibilité, mais ça ne le sera plus.
Ça a été un petit peu modéré, je crois, ce point-là, parce que justement, c'était prévu, ça a été un petit peu modéré, mais quand même, le terme est assez problématique.
Non, le terme est grave. À mon avis, c'est grave. Oui, bon, les arrangements cosmétiques, c'est gentil, mais c'est pas ça. Le fond du sujet est là. En fait, et là, je voudrais, si vous voulez, si on peut avancer, c'est que dans la situation de l'État d'Israël aujourd'hui, vous avez des villes, de grandes villes, vous avez des petits villages, vous avez des kibboutzim, des moshavim qui ont une fonction assez spéciale, qui sont différents. Alors, je veux bien admettre que quelqu'un me dise, écoute, la porte est ouverte à tout le monde, dans notre village, n'importe quel citoyen peut venir s'installer, mais si c'est un village habité exclusivement par des Israéliens juifs, et en plus qui serait peut-être un peu religieux, je peux comprendre, j'admettrai pas, mais je peux comprendre qu'on puisse dire un citoyen arabe israélien n'y trouverait pas sa place. Qu'est-ce qu'il fera le jour de Kippour? Qu'est-ce qu'il fera pendant les 7 jours de Pessah? Qu'est-ce qu'il fera pendant Soukhot? Qu'est-ce qu'il fera Tisha B'Av? Qu'est-ce qu'il fera? C'est un problème qui ne se pose pas dans les villes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de villes qui sont mixtes. Haïfa, Ramle, Alod, Jérusalem, n'en parlons pas, où là, le problème ne se pose pas. Alors, je peux comprendre qu'on pourrait dire bona fide, si vous voulez, qu'effectivement, dans des petites localités très typiques, ça peut poser des problèmes. On ne l'interdit pas, mais ça n'a pas d'intérêt. Exactement comme un juif religieux, par exemple, ou même traditionnaliste, n'irait pas vivre dans un village arabe. Qu'est-ce qu'il voudrait qu'il fasse là-bas?
Tout à fait, mais attendez, parce que là, on va être obligé de conclure. Ce que vous voulez mettre en évidence, si vous voulez, c'est que le statut des minorités n'est pas vraiment mentionné, expliqué avec ses droits dans la loi. C'est ça qui pose problème. Ouais. Et il faut surtout se rappeler qu'une démocratie se juge, et les Juifs ont bien appris dans leur histoire à cela, par les droits des minorités plus que par les pouvoirs de la majorité. Et malheureusement, cette loi ne tient absolument pas compte de ces problèmes-là.
Absolument.
Voilà, je crois que c'est ça le point.
Un dernier mot, si vous me permettez.
On a 30 secondes.
Toute cette loi vient d'un moment de peur.
Tout à fait.
C'est une réaction de peur. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et c'est malheureusement toute la politique de ce gouvernement qui est gérée que par la peur au lieu d'avoir une perspective sur l'avenir. Voilà, écoutez, Madame Sidor, je vous remercie d'avoir expliqué à nos auditeurs cette loi. Je donne rendez-vous à 15 jours pour notre prochaine émission et par tous ceux qui veulent venir assister à nos réunions. Notre prochaine réunion est à la rentrée, pour la paix maintenant, le 17 septembre au Cercle Bernard Lazare, 10 rue Saint-Claude. À 19h45, nous avons notre Assemblée Générale annuelle et à 21h, nous projetterons le film Les Guerres de la paix, un film de Anna Souline et de Jessica Berthaud qui parle du mouvement des femmes pour la paix en Israël qui, elles, se battent pour une solution à ce conflit qui ne dure que depuis trop longtemps. Merci à nos auditeurs, à tous, à David Chemla pour vous dire Shabbat Shalom et à dans 15 jours.